Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 24 novembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique a appelé les responsables des trois pouvoirs à trouver des solutions pratiques aux problèmes économiques du pays, tout en qualifiant de crime les sanctions américaines. Le ministère iranien de la Défense dévoilera bientôt le destroyer de Dénar. La résistance yéménite a fait frapper à Aramco. L'Algérie restera aux côtés de la Syrie en parole et acte, a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience ce mardi 24 novembre les membres du Haut Conseil de coordination économique. Le guide suprême de la révolution islamique a appelé les responsables des trois pouvoir des exécutifs, législatifs et judiciaires à trouver des solutions pratiques aux problèmes économiques du pays, s'exprimant au sujet des sanctions imposées par les États-Unis et leurs partenaires et alliés européens qui constituaient une réalité amère et un crime manifeste de la part de ces derniers contre le peuple iranien. Le guide suprême de la révolution islamique a parlé de deux solutions pour y faire face. Une solution résidait dans la levée des sanctions pour laquelle nous avons déjà opté sans pouvoir pour autant arriver à un quelconque résultat jusqu'à présent. La deuxième solution viendra en surmontant ces sanctions. Certes, c'est un chemin difficile à parcourir, mais efficace et prometteur. Si nous insistons corps et âme et avec tous les efforts et initiatives possibles pour, en fait, nous finirons par conduire ces derniers à renoncer eux-mêmes aux sanctions, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. Le ministre iranien de la Défense a déclaré qu'un destroyer national à la pointe de la technologie baptisé DENA rejoindra la flotte de la marine iranienne dans un proche avenir. Le général de brigade Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, a annoncé dès cette nouvelle lundi, affirmant que le nouveau navire qui a été conçu et fabriqué par des experts militaires nationaux bénéficie de nouvelles capacités par rapport aux autres destroyer du pays. DENA est un nouveau destroyer de classement ou de similaire au destroyer Jamaran et de Sahand avec des technologies plus avancées. Le nouveau porte-avions iranien est capable de transporter des hélicoptères, des drones, des missiles et d'autres éléments de guerre. La politique de sanctions contre les pays indépendants est un échec total, a souligné le président du Parlement iranien, Mohammad Barer Ghalibaf. Il a fait ses remarques lors d'une réunion avec l'ambassadeur de la Turquie à Téhéran, au cours de laquelle il a également souligné les liens historiques profonds entre Téhéran et Ankara. Malgré l'imposition de sanctions injustes et la mise en œuvre de la politique unilatérale des États-Unis contre la République islamique d'Iran, la production nationale est devenue plus robuste et les menaces se sont transformées en opportunités, a souligné le président du Parlement iranien. La force balistique des forces de Sanaa, la résistance yéménite, a avisé ce lundi 23 novembre la station de distribution de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco à Jeddah au moyen d'un missile ailé de type Qods 2, a révélé le porte-parole des forces armées yéménites Yahya Sari. Le tir de missile était très précis. Les ambulances et les pompiers ont accouru sur le lieu visé, a-t-il précisé dans un tweet. Selon lui, ce missile de type Qods 2 est récemment entré en action au cours d'expériences opérationnelles effectuées au cœur du royaume saoudien, mais qui n'ont pas été annoncées. Cette opération spéciale est une riposte à l'embargo et à l'offensive et s'inscrit dans le cadre des promesses lancées par les forces armées yéménites depuis quelques jours d'exécuter des opérations de grande envergure contre l'Arabie saoudite. Yahya Sari a renouvelé de son appel lancé le 12 novembre à l'adresse de toutes les entreprises étrangères actives en Arabie saoudite et aux habitants près des régions saoudiennes de Hejaz et de Najd et de toutes les autres régions, leur demandant de s'éloigner des installations militaires et économiques vitales utilisées par le régime saoudien à des fins militaires. L'Arabie saoudite n'a pas commenté cet événement. Et en Syrie, l'occupation américaine a fait sortir des camions citernes chargés du pétrole syrien volé de banlieue de Tahasaka vers les territoires irakiens, selon l'agence Sana. Les forces d'occupation américaines ont fait sortir un convoi de camions et des camions citernes chargés du pétrole volé de leur base illégale dans la zone de Kharabal-Jir, dans la banlieue de Hasake, vers les territoires irakiens. Des sources locales dans la zone d'Al-Yaroubia ont révélé aux correspondants de Sana qu'un convoi composé de 49 véhicules de camions citernes chargés du pétrole volé, en plus de camions frigo et de camions de transport militaire, étaient sortis accompagnés de plusieurs blindés de leur base illégale dans la zone d'Al-Kharabal-Jir, dans la banlieue de Hasaka, vers le point illégal de Valid, vers le territoire irakien. L'Algérie restera aux côtés de la Syrie en parole et en acte, s'étant rendu à l'ambassade de Syrie à Alger pour y présenter les condoléances de son pays pour le décès de son homologue syrien Valid Al-Mualem. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadem, a réitéré son soutien à la Syrie. L'Algérie apporte son soutien à la Syrie. Le peuple syrien devra décider de son propre destin et aucun pays étranger ne devra s'immiscer dans cette affaire, a-t-il déclaré lors d'un point de presse à l'issue de sa rencontre avec l'ambassadeur saoudien. Selon lui, la position de l'Algérie est décisive et fondée sur les principes. L'Algérie avait été aux côtés de la Syrie dans les circonstances les plus difficiles et le restera toujours, et pas seulement en parole, mais en acte, a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le Parlement iranien enjoint au gouvernement d'accélérer de l'enrichissement, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le Parlement iranien évoque la production de l'uranium enrichi à 20%. Le représentant permanent iranien auprès des Nations Unies et des organisations internationales a lui aussi annoncé que l'Iran est entré dans une nouvelle phase d'enrichissement. À l'issue d'une réunion tenue ce lundi 23 novembre à Abolfazl Amoui, porte-parole de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a annoncé la mise en examen du plan stratégique pour la production de l'uranium enrichi à 20% par le gouvernement. L'examen du plan a été suivi par ordre de priorité des articles. Le premier article est lié à l'obligation du gouvernement d'enrichir à 20%, le deuxième à l'augmentation des réserves d'uranium faiblement enrichi par la République islamique d'Iran et le troisième à l'utilisation de la nouvelle génération de centrifugeuses IR2M et IR6 par le gouvernement et l'Organisation de l'énergie atomique, a-t-il précisé. La réflexion sur un plan d'action stratégique pour lever les sanctions est toujours à l'ordre du jour de la Commission. Une réunion se tiendra demain en la matière, a-t-il affirmé encore. La démarche suit la décision d'un plan d'action stratégique pour la levée des sanctions américaines présentées au Parlement iranien et adoptées le 2 novembre dernier avec 196 voix pour, 6 contre et 4 abstentions. Le plan a prévu d'engager le gouvernement iranien à prendre des mesures de représailles envers les États-Unis tout en donnant des directives à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. La production de moins 120 kg d'uranium enrichi à 20% par an dans les installations de Fordo, l'augmentation de la capacité de production de l'uranium et de son enrichissement pour consommation civile à un taux annuel de moins 500 kg et le lancement des opérations d'injection de gaz d'enrichissement et de stockage de matière avec au moins 1000 centrifugeuses de IR2M dans le secteur souterrain des installations Martyr Ahmadi Roshan à Natanz et figure parmi les clauses du plan d'action stratégique pour la levée des sanctions. De son côté, le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies et des organisations internationales, Qasem Ghalibabadi, a annoncé que l'Iran était entré dans une nouvelle phase d'enrichissement, évoquant que l'injection d'hexafluorure d'uranium UF6 dans une centrifugeuse est la dernière étape de l'enrichissement et de la séparation de l'uranium 238 de l'uranium 235. Monsieur Ghalibabadi a indiqué la dernière initiative nucléaire de l'Iran dans le cadre de ses engagements était l'injection d'hexafluorure d'uranium dans la centrifugeuse IRM discutée lors de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique après laquelle la Troïka européenne, France, Grande-Bretagne et Allemagne a publié une autre déclaration contre l'Iran, a accusé notre pays de violer l'accord nucléaire. Les avancées du nucléaire iranien se poursuivent au mépris des menaces du président américain Donald Trump appelant à une attaque contre l'Iran sur la base des récents rapports de l'AIA qui s'est fermement opposé à la demande jugée d'irraisonnable. Cependant, l'ambassadeur iranien auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que toutes les actions nucléaires de l'Iran sont pacifiques et menées sous les auspices de l'AIA. Les États-Unis n'ont donc aucune excuse pour attaquer l'Iran.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui vient de se produire ces derniers jours dans la région du Sahara occidental, surtout entre le Maroc et le Front Polisario. Et en fait, on va revenir sur cet événement et le Sahara occidental qui est en fait désormais l'objet, si vous voulez, d'un foyer de tension, plutôt pour être précis, d'un regain de tension. Et cela intervient à un moment où l'autre pays de la région, l'Algérie, a lancé par la voix du chef d'état-major de l'armée nationale algérienne une mise en garde. Le chef d'état-major de l'armée algérienne qui a appelé en fait les soldats à se tenir prêts pour parer à toute éventualité. Je cite là le chef d'état-major de l'armée algérienne. Aujourd'hui, je compte sur tout le monde, chacun dans son poste, du simple soldat au plus haut gradé pour une mission noble, celle de la défense de nos frontières contre le terrorisme, contre les trafiquants et même contre cet ennemi, un ennemi en fait des classiques. Et toujours, s'agissant de ce regain de tension dans la région, il y a eu surtout cet article publié par le site d'information Algérie Patriotique qui cite en fait un journaliste exilé à Londres, Saïd Ben Zedira, qui fait état de l'arrestation de 25 ressortissants algériens qui avaient été déguisés, si vous voulez, en forces militaires pour en fait les filmer et les montrer comme en fait les éléments de l'armée algérienne pour en fait intensifier de plus ce regain de tension. Et Algérie Patriotique fait état d'un complot ourdi, toujours selon ce site d'information, ourdi par d'autres pays, les Émirats Arabes Unis, le régime israélien contre l'Algérie. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour cher Monsieur Navrostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est M. Dortiguier, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi depuis Paris. Il s'agit de M. Imadeddine Ambrouni. M. Ambrouni, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, à tous nos auditeurs. Merci.
Monsieur Ambrouni, on va commencer avec vous et l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement dans le Sahara occidental entre le Front Polisario, le Maroc et cette mise en garde, et surtout lancée par l'Algérie, Monsieur Ambrouni?
Oui, il faut d'abord peut-être pour nos téléspectateurs parler de ce que c'est le Sahara occidental et le conflit. C'est un conflit de 45 ans et de guerre, de négociation, et on voit qu'elle est toujours au point mort. Le Sahara occidental, en fait, c'est une ancienne colonie espagnole qui s'étend à peu près de 270 000 km et peuplée de 500 000 habitants. Et essentiellement, elle était contrôlée donc, par les Espagnols. Et dans les années 70, les Espagnols sont partis. Il y avait eu des négociations avec les Mauritaniens, avec les Marocains. Le Front de Polisario qui combattait les Espagnols, c'est-à-dire ce front qui représente le peuple sahraoui. Et après cet accord entre Espagnols, Marocains et Mauritaniens, on a vu que le Maroc il est entré plus ou moins en guerre avec le Front de Polisario. Et depuis cette date, jusqu'à 1991, on va voir des guerres d'ici et là. Et en 91, donc depuis à peu près 20 ans maintenant, il y a eu un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour des raisons géopolitiques, pour des raisons à nuire peut-être pour l'Algérie et même pour le Maroc, Il y a malheureusement un problème sur cette, les frontières entre le Maroc et donc cette partie négociée des Francs Polisario. On voit que les tensions, elles sont là. On voit que les responsables, en tout cas du Front de Polisario, ils ont annoncé que le cessez-le-feu n'est plus là. Et donc, on est dans une situation de conflit. C'est pour cette raison, le commandant, le chef commandant de l'armée donc algérienne, il donne un discours très ferme pour le Maroc, mais surtout pour ceux qui veulent s'ingérer dans ce problème politique frontalier entre le Maroc, l'Algérie et le Front de Polisario. Donc c'est un vrai sujet. Malheureusement, depuis 50 ans presque, on n'a pas trouvé de solution. Le Maroc campe sur ses positions, le Front Polisario campe aussi sur ses positions. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont en Algérie, à peu près 200 000 réfugiés sahraouis qui se trouvent à Tindouf. Donc vraiment, c'est un problème humain et c'est un problème géopolitique, en fait.
Monsieur Tortigué, vous venez d'entendre les explications de monsieur Imbruni. Monsieur Tortigué, pensez-vous qu'il y a une volonté d'embraser cette région, si vous voulez, du monde, d'attiser le feu de tension dans cette région du monde entre le Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie? Est-ce de votre avis, monsieur Tortigué?
Oui, en effet, en remerciant M. Imbruni de son exposé, qui me semble très juste, très clair, ayant connu justement, soit par M. Ahmed Rami, soit qui est marocain, soit par des Algériens, des Espagnols aussi, ayant connu la situation de cette région, il est un fait évident, c'est que pareil. Situation aujourd'hui ne peut durer que parce que des intérêts très, très importants sont en jeu. Ces intérêts visent, à notre avis, deux objectifs. Maintenir un minimum d'hostilité entre l'Algérie et le Maroc et par là même empêcher toute constitution, par exemple, que l'on pourrait envisager, disons, ou fédérale ou autre chose, qui serait une sorte d'unité maghrébine, si vous voulez. Et ça, c'est un point. Et cette situation ne peut durer que parce qu'il y a un approvisionnement d'armes. Il y a des formations de cadres. Il y a, disons, des formations de cadres qui impliquent de l'armement, qui impliquent des instructions. M. Imbruni a très bien dit que cela a duré depuis déjà une quarantaine d'années. Nous avions un cessez-le-feu depuis 1991. Mais là, même... Peut-on dire les prétextes d'enflammer cette région sont toujours très minces. Il s'est agi dernièrement, récemment, donc, si vous en parliez, d'une opération qui a été contrariée par le Front Polisario, c'est-à-dire l'opération marocaine de dégagement d'une route vers la Mauritanie. Donc on peut toujours trouver, disons, des prétextes. Je crois qu'il y a une inconscience, en tout cas, ou un manque d'élévation, si vous voulez, politique entre les partis. Les partis ne comprennent pas, c'est mon opinion de français, mais enfin, opinion, peut-on dire, philosophique, les partis ne comprennent pas qu'ils sont joués, c'est-à-dire qu'aucun ne peut tirer un avantage pour lui-même. Mais, disons, les partis étrangers, que ce soit l'antisionisme, évidemment, que ce soit des partis comme la France, hein, d'autres partis qui ont toujours eu la main sur le Maghreb, ont intérêt justement à ce qu'il y ait une sorte de rivalité permanente dont les causes premières finalement disparaissent. Qu'est-ce que l'on voit? On voit des morts, simplement, un désir de vengeance, on voit une sorte de, d'ennemi héréditaire. Or, il semble quand même que c'est mon avis, mais je ne veux choquer personne, mais il semble quand même que la position marocaine, indépendamment de la nature du régime marocain, de ses dirigeants, etc., mais nous parlons en géopolitique, il est certain que cette région du Sahara espagnol, je reprends l'ancien terme, est un prolongement du Maroc, évidemment, c'est sur la voie du Maroc à la Mauritanie. Un enfant le voit sur une carte. Mais disons que les hommes qui dirigent, comme par exemple on a incriminé les services secrets, les services spéciaux, c'est des Algériens, dans la formation des cadres, Polisario. Bon, il est certain que cela est vrai. Mais je dois dire qu'il manque dans cette affaire-là un recul politique et surtout, ce sera mon dernier mot, une élévation de vie politique. C'est-à-dire les gens, en fait, c'est une affaire de corruption aussi, vous voyez. Certainement que des groupes étrangers promettent aux États en question, à savoir le Maroc et l'Algérie, des bénéfices, certainement des bénéfices particuliers ou privés, ceci n'est pas exclu, voyez-vous, moyennant, disons, la continuité ou la, de cet état de fait, guerrier, c'est absurde. Il ne peut pas y avoir une affaire de 40 ans qui dure ainsi. C'est incroyable. C'est vraiment, disons, défier le bon sens. Et je crois que ceux, malheureusement, qui dirigent les opérations savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire vouloir diviser le Maghreb, instaurer des inimitiés continuelles, voyez-vous, pour pouvoir obéir à la fameuse formule impérialiste que vous connaissez, diviser pour régner.
Monsieur de Imbruni, est-ce que vous aussi vous pensez que des parties étrangères, de le point auquel a fait allusion M. de Dortiguet tout à l'heure, ont intérêt d'attiser le feu de cette rivalité, pour reprendre l'expression de M. Dortiguet, ou bien pour faire perdurer cette situation de conflit, pour reprendre votre propre expression, M. Imbruni?
En fait, c'est un problème réel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner l'autodétermination au peuple sahraoui ou pas? Donc c'est ça la question principale. Aujourd'hui, le Maroc s'oppose. Le Maroc veut donner de l'autodétermination, mais il faut que cette région reste sous sa souveraineté. Historiquement, comme il a dit M. Dortiguet, c'est un prolongement marocain, mais la Mauritanie aussi, c'est un prolongement du Maroc. Il n'y avait pas un pays qui s'appelle la Mauritanie, mais la géopolitique fait que la Mauritanie existe. Donc le peuple sahraoui, il existe, il est là, il a sa culture, il a chez soi. Il se trouve que l'Algérie, pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons stratégiques, pour une ouverture vers l'Atlantique, donc elle a soutenu le Front Polisario, soutenu militairement, soutenu politiquement. De l'autre côté, le Maroc est soutenu par l'Union européenne, soutenu par la France. Et on voit que du côté de l'Union africaine, parce que c'est ça qui est important, on voit l'absence en fait politique de l'Union africaine dans cette affaire. Et on voit que le Maroc a des appuis européens, américains, parfois même allemands. Donc on voit que l'affaire, c'est une affaire régionale, mais elle est devenue internationale. Donc il faut espérer que l'ONU reprenne en main la question et trouver une solution négociée. On ne peut pas trouver une solution par la voie de la guerre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Le changement politique algérien à l'intérieur, le changement des relations extérieures de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie tend vers une relation stratégique avec la Russie et une relations stratégiques économiques avec la Chine, et ça, donc l'Union européenne et surtout la France s'opposent énormément. Aussi, il y a les États-Unis et l'entité sioniste dans leur plan de normalisation arabe entre les gouvernements arabes et l'État sioniste. Ils font la pression sur le Maroc, donc c'est une guerre en fait qui a trois faces. La face régionale réelle, donc il faut trouver une solution pour ce peuple qui souffre depuis un demi-siècle. Une face géopolitique qui se joue contre l'Algérie, donc on veut faire la pression contre l'Algérie. On ne veut pas que l'Algérie soit plus influente dans la région. On ne veut pas que l'Algérie soit plus indépendante vis-à-vis de l'Union européenne surtout. Et donc on va créer cette guerre s'ils arrivent à la créer en fait. Et aussi pour faire pression sur le Maroc pour qu'il normalise officiellement les relations diplomatiques avec l'entité sioniste.
Monsieur de Dorsiguet, Monsieur Abrouni vient de le dire,
oui.
Sur le plan de la politique étrangère, l'Algérie s'oriente vers des pays comme la Russie et la Chine,
oui.
Une politique qui ne plaît pas quand même à certains pays, selon l'expression de Monsieur Abrouni, et l'armée algérienne, Monsieur de Dorsiguet, est désormais en état d'alerte maximale sur tous les fronts, Monsieur Dorsiguet, et de cette, si vous voulez, mise en garde du chef d'état-major de l'armée algérienne, également cette situation d'alerte maximale de l'armée sur tous les fronts, intervient à un moment où, en fait, l'Algérie est confrontée à pas mal de problèmes sur toutes ces frontières, M. Dorsiguet. À la frontière Est, c'est la Libye et ce qui se passe en Libye. À la frontière US, il y a, en fait, ces groupes armés qui opèrent, si vous voulez, dans le nord du Mali et du Niger. Et à l'ouest, il y a ce trafic de drogue, M. Dorsiguet. Et c'est dans ce sens qu'il faut interpréter, M. Dorsiguet, cette mise en garde du chef d'état-major de l'armée algérienne, n'est-ce pas, M. Dorsiguet?
Oui, en effet. Mais justement, à notre avis, une conclusion pratique, une mise en pratique de cet avertissement serait de faire baisser toute occasion de conflit. C'est-à-dire montrer qu'on a une puissance, c'est une chose, mais user de cette puissance pour conduire à l'affaiblissement de son propre pays dans une guerre interminable, celle même que nous avons connue, que rappelons-le, qui a duré pendant 40 ans, à notre avis, conduirait à une paralysie de l'Algérie, comme du Maroc, comme de même que ce que vous avez évoqué, M. Norostin, en Libye. Quel que soit, disons, ce que l'on peut accorder à un ou deux, disons, des gouvernements qui soient soutenus par les uns ou par les autres, parce que je veux dire les uns ou les autres, par telle ou telle puissance, ce qui est dangereux, c'est justement le conflit lui-même. C'est-à-dire, rappelons-le, l'usure du conflit. C'est elle sur laquelle, à long terme, et non pas à court terme, vise justement les puissances étrangères. Alors, on trouve de bons arguments, il y a des arguments toujours possibles, mais il faut comprendre qu'il y a un salut plus général. Je l'appellerais d'un côté un salut maghrébin, voyez-vous, de l'autre côté un salut de toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire y compris la Libye, je me rappelle pour bien, c'est un détail, mais la fameuse union de la Tunisie avec la Libye, qui n'a duré qu'une semaine, je crois, avec M. Masoudi, autrefois le président Bourguiba, à ce moment-là, il y avait cette volonté d'union, à notre avis, entre les États maghrébins, doit l'emporter sur les querelles locales. Voyez-vous, quels que soient les arguments, c'est la prolongation de la guerre. Ce n'est pas du tout le fait de montrer sa force qui est dangereux, ou de lutter contre le terrorisme. C'est s'abandonner, disons, à une stratégie qui n'est plus la sienne, qui sera nourrie à droite et à gauche par des intervenants, voyez-vous. N'oublions pas que même l'entité sioniste qui est très puissante au Maroc, chacun le sait, avec M. Azoulay, etc. Elle a deux bras, ou trois bras, comme les dieux indiens, vous savez. Elle a plusieurs bras. C'est-à-dire qu'elle touche à tout. Et d'un côté, nous avons la Russie et la Chine, par exemple, qui, bien sûr, aident l'Algérie. Mais si vous abandonnez votre propre sort à des soutiens étrangers, à la longue, ce n'est pas l'intérêt national ou l'intérêt, disons, géopolitique de la région qui l'emporte. Mais vous êtes toujours soumis, disons, à ceux qui vous aident, à ceux qui prétendent défendre vos intérêts et en réalité ne font qu'exprimer, disons, un partage du monde.
Monsieur Abrouni, permettez-moi de vous poser également, à vous également, cette question. Faut-il également interpréter ce qui se passe actuellement dans le Sahara occidental, dans son contexte régional également, sur le continent africain, au niveau du continent africain, parce que quand même, ces derniers temps, il y a eu des informations qui ont été publiées, comme quoi il y a cette volonté également de réactiver ces groupes terroristes sur le continent africain. africains également et d'embraser, si vous voulez, toute la région. Et vous l'avez dit, il faut chercher une solution négociée pour ce problème du Sahara occidental. Mais pour ce faire, il faut que l'Organisation des Nations Unies joue son rôle. Également, il faut mettre tout en œuvre pour, si vous voulez, en découdre avec ces activités, si vous voulez, dangereuses sur le continent africain également.
Vous savez que la menace terroriste est une menace réelle qui dure depuis une vingtaine d'années dans cette région, et elle est devenue une menace pour l'Europe. Et vous savez que les pays de l'Afrique du Nord, c'est le mur qui protège donc l'Europe et protège le sud de l'Europe contre cette menace vivace et réaliste et réelle. Et on voit que l'armée française, donc elle se bat, elle combat donc au Mali, elle combat au Niger, elle a des forces armées un peu partout, et en fait on prend au sérieux la menace terroriste de ces groupes. Et donc on se trouve que l'Algérie, elle est impliquée dans le sens où ses frontières sont menacées, comme on l'a précisé tout à l'heure, mais aussi le Maroc, aussi, il veut s'agrandir dans son influence politique et économique sur toute cette Afrique donc, qui bouge, qui monte, qui est l'avenir, en fait. L'Afrique, le continent, il faut comprendre que le continent africain, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire, sans Afrique, l'Europe sera... Ils seront des pays de troisième ligne, de quatrième ligne, de sous-développés par rapport à l'Asie et par rapport donc à la Chine qui monte. Parce que c'est très important de voir la globalité de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, on voit l'affaiblissement des États-Unis, l'allié principal, le protecteur principal de l'Europe. Donc l'affaiblissement des Américains fait que la puissance russe militaire, elle est montée, la puissance économique et donc politique de la Chine, elle est là. Et qui présente un petit peu les Russes ou les Chinois dans cette région, c'est l'Algérie. Donc, même le Maroc essaie de s'ouvrir économiquement vers la Chine et militairement vers la Russie, mais il reste timide. Donc, l'affaire, si vous voulez, du Sahara occidental, c'est une affaire marocaine-algérienne, parce que les deux pays, ils sont capables de trouver la solution. Malheureusement, l'ingérence étrangère européenne et l'ingérence surtout aujourd'hui de quelques pays du Golfe Persique arabe, comme l'Émirat arabe uni ou l'Arabie saoudite, ces pays qui financent des groupes terroristes. Et donc, aujourd'hui, ils essayent de venir, entre parenthèses, en aide au Maroc face à leur ennemi, entre parenthèses, algérien. En fait, ils ne sont pas ennemis, le Maroc, l'Algérie. Et c'est cette ingérence arabe, si vous voulez, qui veut pousser ce conflit à pourrir donc cette relation marocaine-algérienne et permettre donc l'activité de ces groupes terroristes et nuire à l'Algérie. Donc le centre de ce conflit, c'est en fait nuire au Maroc et à l'Algérie tous les deux.
Monsieur Dortiguet, très très rapidement, s'il vous plaît, en quelques phrases, en une minute au maximum, selon Monsieur Abrouni, là, il y a toujours en fait l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui cherchent, si vous voulez, à jouer un rôle de destructeur dans cette affaire également.
Oui, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne représentent pas, disons, des intérêts proprement arabes, mais sont au service, bien sûr, de ceux qu'ils ont créés, entretenus, etc. Et ce sont en fait de faux riches, voyez-vous, qui, dont la fortune, d'ailleurs, ne dépend que de la volonté de la puissance impériale, à commencer par l'Angleterre au départ, et les États-Unis, et d'autres ensuite, qui les flattent, qui les soutiennent. Il faut donc, justement, qu'il y ait, comme on peut dire, c'est mon slogan que je reprendrai, l'Afrique aux Africains d'abord, et non pas du tout à ceux qui prétendent ou les aider ou les diviser, et qui en réalité, disons, ne font, comment dire, qu'aujourd'hui, reprend la formule, diviser pour régner. En réalité, le choix est entre l'anarchie durable ou au contraire des sacrifices réciproques entre voisins qui sont condamnés à être voisins par la nature, par l'histoire, par la géographie.
Merci infiniment, Monsieur Pierre Dorsillier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Imadedine Imbrouni, d'avoir été avec moi pour cette émission, je vous en prie, depuis Paris. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à Presse TV Français. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique enverra une flotte de navires militaires accompagnés du nouveau navire de guerre Rudaku dans le nord de l'océan Indien. La cérémonie de ralliement du navire de guerre océanique Rudaku à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a eu lieu ce jeudi 19 novembre en présence du commandant en chef du CGRI à Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, d'après l'agence de presse Tasnim News. Le navire de guerre océanique Shahid Rudaki est un navire lourd, polyvalent et à longue portée, capable de transporter tous les types d'aéronefs, du AEV et de missiles, de systèmes de défense et de radars. Avec un poids de 400 tonnes, une longueur de 150 mètres, une largeur de 22 mètres, le navire dispose d'un radar tridimensionnel, de missiles sol-sol et sol-air, de systèmes de communication intégrés très avancés, du système de défense anti-aérienne Khordad 2-3. S'adressant aux journalistes, le commandant de la marine et du CGRI, le contre-amiral Ali Reza de Tanksiri, a déclaré que le Rudaki ferait partie d'une flotte qui partirait pour l'océan Indien. La flotte navale sera déployée au nord de l'océan Indien pour une mission qui comprend la surveillance des données marines, souterraines et aériennes, a-t-il souligné. Et de poursuivre, la flotte opérera également des opérations tactiques de guerre asymétriques au cours de sa prochaine mission, soulignant que le nouveau navire de guerre aidera le CGRI à poursuivre ses stratégies de bataille asymétriques et de supériorité du renseignement dans les eaux lointaines. La flotte navale doit assumer la sécurité de la navigation dans le nord de l'océan Indien et contre les pirates en menant des opérations si nécessaire, a ajouté le contre-amiral Ali Reza Tanksiri. Il a indiqué que la flotte du CGRI est également chargée de lutter contre le trafic de drogue, aussi le sauvetage des navires de commerce et de pêche, et également a pour mission de combattre les menaces éventuelles des forces internationales. Technologie nucléaire, l'Iran entre dans une nouvelle phase d'enrichissement grâce à de nouvelles centrifugeuses. L'injection d'hexafluorure d'uranium ou de gaz UF6 dans une centrifugeuse est la dernière étape pour commencer à enrichir et à séparer l'uranium 238 de l'uranium 235, a déclaré ce dimanche
l'ambassadeur et le représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, dans une interview accordée à Khabar Online. La dernière mesure de l'Iran qui continue de s'affranchir des obligations liées au plan global d'action COCOCOMA, à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, en riposte au retrait unilatéral des États-Unis de Trump du pacte multilatéral et à l'échec des Européens à honorer leurs engagements, était l'injection d'exavèbles flux de orure d'uranium ou UFS dans la centrifugeuse IRM. Cette mesure a été examinée lors d'une réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sans tarder, la Troïka européenne, France, Grande-Bretagne et Allemagne a publié une autre déclaration contre l'Iran, l'accusant de violer l'accord nucléaire. Et toutes les activités nucléaires de l'Iran sont à vocation pacifique et de nature civile, menées sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et les États-Unis n'ont aucune excuse pour attaquer l'Iran, a insisté Kazem Gharibabadi, ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne. Nos positions adoptées lors des réunions trimestrielles du Conseil des gouverneurs sur l'accord nucléaire et les garanties sont généralement axé sur trois questions. Les rapports du directeur général de l'AIA, les évolutions liées à la mise en œuvre des obligations par d'autres parties signatrices et les positions des pays prises lors de la réunion, a expliqué ce diplomate iranien. Quant à leur position envers les États-Unis, les Européens regrettent en général le retrait de ce pays du plan global d'action conjoint et se contentent des discours et des réactions verbales. Mais quand il s'agit de l'Iran et de ses mesures de rétorsion légitimes, qui sont pourtant conformes aux dispositions du pacte multilatéral, il s'alarme et exprime de sérieuses préoccupations. Au cours de ces deux dernières années et demie, les Européens n'ont pris aucune mesure concrète pour honorer leurs engagements dans les deux domaines de la levée des sanctions et de la coopération nucléaire pacifique avec l'Iran, lié au plan global d'action conjoint, a déploré de ce diplomate iranien. L'Iran, pour rappel, a commencé à injecter du gaz UF6 dans ses centrifugeuses IR2M sur le site nucléaire de Natanz. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a été nommé chef de la diplomatie en remplacement de Walid Mualem, décédé lundi dernier, a annoncé de dimanche 22 novembre la présidence syrienne. M. Miqdad, de 62 ans, sera remplacé à son poste par le représentant permanent de la Syrie à l'ONU, Bachar al-Jafari, selon un décret du président Bachar al-Assad. Un second décret désigne l'ambassadeur Bassam al Sabar pour remplacer M. Jafari aux Nations Unies. Chef de la diplomatie syrienne depuis 14 ans, Walid Mualem est décédé lundi à l'âge de 79 ans après avoir été un pilier du pouvoir, conservant son portefeuille régalien durant la guerre et malgré plusieurs remaniements. Bien que le mépris affiché par Washington à la souveraineté des pays dépendants ne soit pas chose nouvelle, les récents agissements dans l'enceinte des locaux de l'ambassade américaine à Bagdad, dont l'installation d'un système de défense aérienne sous le prétexte de protéger ce bâtiment, contredisent tous les critères internationaux, car c'est la souveraineté d'un pays, en l'occurrence l'Irak, qui est compromise. Un analyste politique irakien a souligné que l'ambassade américaine à Bagdad avait violé la souveraineté irakienne en installant le système de défense antimissile SDRAM à l'intérieur de ce bâtiment diplomatique. L'analyste politique irakien de Mohammad al-Kabi a souligné que la décision américaine d'installer le système de défense aérienne au sein de l'ambassade des États-Unis à Bagdad était une violation de la souveraineté irakienne, soulignant que l'ambassade américaine s'était transformée en une base militaire au cœur de la capitale irakienne. Les hommes politiques irakiens se contentent de condamner ces actions sans en fait passer à l'acte sans que le gouvernement prenne des décisions pratiques pour protéger la souveraineté nationale de l'Irak et expulser les troupes US de ce pays, a déclaré l'homme politique irakien dans un entretien au site web Al-Maluma. Il a ajouté que la présence de l'ambassade américaine centre de Bagdad était une violation de la souveraineté nationale irakienne. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest, essentiellement consacrée à l'actualité des Iraniennes, s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. On va se retrouver la semaine prochaine, plus précisément mardi prochain, pour une autre émission et pour aborder ensemble les faits marquants de l'actualité de cette région.
Thank you.